c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de Parlemonde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Et assisté par Benjamin.
Voilà, Benjamin. Pour quelques mois.
Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de la Colombie, du Brésil, de l'Équateur, de l'Argentine. Et si le temps nous permet, nous allons vous parler un peu de littérature aussi. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de la Colombie.
Oui, deux années progressistes sous les fourches caudines de l'oligarchie. Donc les fourches caudines, c'est être obligé de subir des conditions très humiliantes. À son actif, le président colombien Gustavo Petro compte d'indéniables succès. Une réforme du droit du travail et des programmes sociaux ont contribué à une réduction historique de la pauvreté, tandis que les rudiments d'une transition énergétique ont été concrétisés. Le bilan relatif aux accords de paix est moins reluisant. Si les relations entre la présidence colombienne et les guérillas ont atteint un degré historique de pacification, de nombreuses régions demeurent sous l'emprise de groupes armés et les clauses de l'accord de 2016 peine à être appliquée. L'oligarchie agraire de Colombie mène un processus de sabotage multiforme visant à faire échouer la première présidence progressive de l'histoire de Colombie. Il y a deux ans, lors de son investiture, Gustavo Petro avait appelé les Colombiens à se rallier au gouvernement de changement, toutes tendances confondues. Une large coalition avait alors répondu présent à son appel, mais l'alliance s'est fissurée lorsque les élites traditionnelles ont compris que les règles du jeu avaient changé et que le président Petro ne comptait pas renoncer à mettre en œuvre l'accord de paix de 2016 avec l'ensemble de ses objectifs.
Te ruño del alma, mi patria querida, donde yo nací. Te canto, hoy que estoy tan lejos, añorando siempre tu música alegre, tu sol tropical. Colombia, mi país de ensueño, mundo, mi diosa sin par. Colombia, quiero yo mirarte, quiero yo abrazarte, no quiero morirme sin volver a ti. (Música)
cuánto te recuerdo. Te ruño del alma mi patria querida, donde yo nací. Te canto hoy que estoy tan lejos, añorando siempre tu música alegre, tu sol tropical. Colombia, mi país de ensueño, mi pequeño mundo, mi diosa sin par. Colombia, quiero yo mirarte, quiero yo abrazarte, no quiero morirme sin volver a ti.
Colombia, Colombia. Et nous allons partir dans un autre grand pays, le Brésil, qui a des problèmes avec le feu de forêt, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, le pays est en guerre contre les incendies dans le sud-est, où l'état d'urgence a été déclaré dans 45 villes. L'Amazonie subit une saison record de feux de forêt. À l'issue d'une réunion de crise avec le président Lula da Silva, la ministre de l'Environnement, Marina Silva, a annoncé que des enquêtes avaient été ouvertes par la police fédérale pour se pencher sur les causes des feux de brousse qui ont touché la région. La police va mener l'enquête et le gouvernement va travailler avec tous les États pour combattre les incendies, a déclaré plus tard le président Lula da Silva. Le gouverneur de Sao Paulo a annoncé que deux personnes soupçonnées d'avoir déclenché des incendies avaient été arrêtées. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent la ville de Ribeiro Preto plongée dans l'obscurité avec une épaisse couche de fumée et de fortes rafales de vent. Des vols ont été annulés et des routes ont été coupées en raison des incendies qui ont également détruit des cultures et tué du bétail. La sécheresse et la chaleur exceptionnelle de 2023 expliquent l'ampleur des incendies de forêt au Brésil, en particulier en Amazonie. Face à la multiplication des foyers, le gouvernement suspecte des actions criminelles.
Oui, mais à ce sujet, Christophe Lucet, l'éditorialiste du journal Sud-Ouest, a écrit la semaine dernière, je vous livre un extrait, « Les dizaines de milliers de foyers qui dévorent la forêt tropicale sont si nombreux que la moitié du cône sud, du Pérou à l'Uruguay, suffoque sous un dantesque panache de fumée qui obscurcit les ciels des mégalopoles. » Et plus loin, il parle de « Cette catastrophe n'est hélas pas isolée en cet été 2024 qui bat tous les records de chaleur sur plusieurs continents. Pour le Brésil, qui doit accueillir l'an prochain à Belém la 30e conférence sur le climat, l'enjeu est vital. » Voilà donc ce que nous indique aussi Christophe Lucet dans le journal Sud-Ouest. Mais nous allons écouter récemment qu'il y a la musique. Thank you. vont arrêter de danser avec la musique brésilienne. Mais nous allons parler de l'Équateur maintenant, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, concernant la communauté des Guarani, demande l'arrêt de l'exploitation pétrolière sur leurs terres. La communauté indigène des Guarani s'insurge contre l'exploitation pétrolière sur leurs terres et notamment dans la réserve naturelle Yasuni, réserve mondiale de la biosphère. Dans une interview à l'agence France-Presse, début septembre, Ene Nenkimo, vice-présidente et membre de la communauté équatorienne des Guarani, alerte sur l'exploitation pétrolière de leurs terres. Les terres concernées abritent 600 espèces d'oiseaux, plus de 200 espèces de mammifères et des centaines d'espèces d'amphibiens et de reptiles. En nombreux points, la forêt amazonienne équatorienne héberge désormais environ 80 blocs pétroliers avec leurs puits et leurs pipelines. Récemment, une fuite a contaminé le fleuve et les sources de plusieurs villages. La société pétrolière publique Petroecuador a plaidé coupable. Mais ce genre de fuite se produit fréquemment, empoisonnant les sols, les animaux et les humains. Il est temps de dire « ça suffit, ils ont assez abusé de nous », clame auprès de l'agence France Presse la vice-présidente Ene Nenkimo.
Alegres charanguiquena taquirareando,
pollerita colorada de la chulita y disimulando,
baila, baila,
chulita, chulita, con alegría del carnaval,
negros tus ojos, tu piel morena, baila chulita pa'l carnaval, baila, baila,
chulita, chulita, con alegría del carnaval,
negros tus ojos, tu piel morena,
pena dormida junto a la luna de la quebrada,
y el carnaval ya se aleja dejando penas y mil nostalgias.
Dejó su pena dormida junto a la luna de la quebrada,
baila, baila.
Folklore de l'Équateur. Et nous allons partir dans un autre grand pays avec pas mal de problèmes, avec un président libertarien, ultra-droite. N'est-ce pas, Béatrix?
Oui, qui entrave la mémoire de la dictature. 40 ans après le retour de la démocratie, le pouvoir s'attaque comme jamais auparavant au travail de la mémoire et de la recherche. Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2023, le président argentin Javier Milei s'est employé à saper les efforts menés par les gouvernements précédents. Le 14 août dernier, le gouvernement a fermé l'unité spéciale chargée d'enquêter sur les disparitions d'enfants créées en 2004. À ce jour, seuls 137 des quelques 500 bébés volés à des opposants ont pu retrouver leur identité. En octobre 2023, en pleine campagne, le futur président avait jugé avec légèreté les crimes de la dictature, les qualifiant d'excès, avant d'estimer inventé le chiffre globalement accepté de 30 000 disparus. En attendant, la justice suit son cours. Le 27 août dernier avait lieu la première audience du procès de 5 militaires de la dictature, jugés pour crimes contre l'humanité envers 133 victimes. Par ailleurs, plusieurs dizaines de procédures sont encore en cours.
Tango argentin, pour oublier les méfaits de ce président libertarien Javier Milei. Mais nous allons passer à un autre sujet. On va parler de littérature, mais c'est un rappel à ce coup d'État en 1973, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, maintenant on va rire avec le diable. C'est un livre qu'a écrit Bruno Patigno, qui est directeur maintenant de Arte, je crois.
Ben oui, 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 qu'on a rencontré à la foire des livres de Vrive.
Et voilà ce qu'il dit. En ce début des années 1990, le diable, grimé en général, était toujours présent. Il me semblait qu'en le rencontrant, je pourrais comprendre ce qui le différenciait du reste du genre humain. Constater ce qui lui manquait ou ce qui avait provoqué un changement de nature. Peut-être me rassurer à bon compte face à l'évidence de l'altérité et témoigner. Bruno Patino a grandi entouré d'images de figures révolutionnaires devenues icônes. Il fantasme et s'interroge sur les hommes derrière les représentations. Parmi ces images, celle du dictateur chilien aux lunettes noires, Augusto Pinochet, incarne pour lui le mal. En 1992, à 26 ans, l'auteur devient correspondant du Monde au Chili. Pinochet a quitté la présidence, mais reste le commandant en chef de l'armée de terre et limite drastiquement ses échanges avec la presse. Il est sur le continent l'un des derniers à avoir fait régner l'ordre par le sang. Bruno Patino cherche déjà à percer l'énigme du pouvoir. Il veut, par tous les moyens, rencontrer le général pour l'interroger. Ce rare face-à-face est raconté dans ses pages 51 ans après la prise du pouvoir de Pinochet par un coup d'État le 11 septembre 1973. Donc avec son livre « Rire avec le diable ».
Oui, qui vient de sortir. Probablement, peut-être, nous allons nous procurer ce livre. On ne sait jamais. On pourrait livrer quelques extraits dans nos prochaines émissions. Et je ne sais pas si on a le temps de... Oui, on va écouter la musique de Quilapayún, un groupe chilien. Voilà, donc c'était le groupe chilien Quilapayún. Mais nous avons quelques minutes pour vous parler de
Flora Tristán,
une femme écrivaine avec des ancêtres péruviens.
Oui, elle est née à Paris, fille d'un officier péruvien au service du roi d'Espagne et d'une bourgeoise parisienne. Flora Tristán, 1803-1844, est l'une des premières figures féministes et socialistes de son temps. Elle était la grand-mère de Paul Gauguin, le
peintre.
Le peintre, oui, pardon. Publication de son livre « Autour de la France ». Les notes de la militante socialiste prise durant son tour de France ouvrière en 1844 paraissent enfin dans une édition fidèle au manuscrit, une révélation. Si vous aimez l'énergie, le sens de la justice, l'intelligence ironique d'une plume qui sait décrire la médiocrité, mais aussi louer le dévouement, ce livre est pour vous. La nouvelle édition du Tour de France de Flora Tristán est un régal de lecture. Convaincue que les ouvriers devaient s'unir sans distinction de métier pour améliorer leur sort et prendre conscience d'eux-mêmes en tant que classe, l'infatigable militante a animé des dizaines de réunions d'Auxerre à Lyon, puis d'Avignon à Toulouse, en remontant ensuite à Bordeaux, où elle meurt épuisée à 41 ans. Ce que l'on a sous les yeux, ce sont les notes que Flora Tristan couchait le soir afin de préparer un livre qu'elle n'a jamais pu écrire, Autour de la France. C'est un grand livre, féroce, où l'on rigole aux éclats, mais ce n'est pas tout.
Oui, et elle est très peu connue, Flora Tristan, en tant qu'écrivaine, mais c'est une féministe qui s'est battue beaucoup, beaucoup pour les ouvriers aussi. Voilà donc ce que nous voulons parler de Flora Tristan, ça a traîné un peu depuis la semaine dernière, mais nous allons passer à la musique. Notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur ce continent. Merci à Antoine à la technique, assisté par Benjamin. Muchas gracias, hasta pronto.